Les discussions du soir. Les discussions du soir, Antoine Garapon.
Je reçois ce soir Milena Jaksik, sociologue. Bonsoir Milena Jaksik.
Bonsoir.
Alors vous êtes sociologue et vous êtes sociologue sur des objets un peu particuliers qui sont la traite des femmes, la traite des êtres humains qui sont souvent des femmes et des femmes qui se prostituent. Et maintenant vous travaillez sur des enfants soldats.
Oui, tout à fait. Alors je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'objets particuliers.
Objet, le mot n'est pas très bon d'ailleurs quand il s'agit de sujets en chair et en os. Mais enfin c'est le mot de la sociologie.
Voilà, donc peut-être c'est pas tant les objets qui soient particuliers, mais plutôt mon traitement de ces objets. Mais c'est je suppose une question sur laquelle on va revenir plus dans le détail. Mais effectivement, je m'intéresse à des causes humanitaires et au traitement institutionnel de ces causes humanitaires.
Mais c'est quand même pas évident, Milena Jaksik, quand on a des femmes qui sont dans des conditions épouvantables. Et je parle pas des enfants soldats où c'est encore différent. Vous nous en direz un mot. C'est des sujets qui sont très très émouvants, qui mobilisent beaucoup et qui mobilisent beaucoup d'associations, qui sollicitent vos convictions en quelque sorte.
Oui, mais en fait, justement, je pense que c'est très important de prendre de la distance avec ces approches qui sont souvent soit misérabilistes, soit sensationnalistes. C'est important de rompre avec ces visions très sensationnalistes de ces questions et de proposer une sociologie un peu dépassionnée de ces objets.
C'est assez compliqué, une sociologie des passionnés de ces objets, Milena Jaksik, quand précisément on est pris pas uniquement par le destin de ces femmes ou de ces enfants, mais aussi par des associations. Il y a quand même pas mal de gens qui travaillent, qui travaillent autour.
Mais peut-être je peux donner un exemple. Mon travail sur la traite des êtres humains, en fait, c'est le résultat de plusieurs accidents que j'ai eus au début de mon enquête de terrain. J'ai réalisé une enquête de terrain, comme souvent font les sociologues. Et au début de cette enquête, j'ai lu beaucoup de rapports d'expertise d'organismes comme les Nations Unies, la Commission européenne, des grandes ONG. Et ces expertises parlaient d'avancer des chiffres de 4 millions de victimes par an, le traite des êtres humains.
C'est un gros sujet quand même, la traite.
C'est un gros sujet. Donc je me suis dit, bon, on a quelque chose là de très très important. Et quand j'ai commencé mon enquête, c'était 2 ou 3 ans après le vote en France de la loi pour la sécurité intérieure. C'est la grande loi de Nicolas Sarkozy, qui à la fois introduisait l'incrimination pour traite des êtres humains dans le code pénal français et qui en même temps réintroduisait le délit de racolage passif.
Ce qui peut paraître paradoxal quand même.
Ce qui est paradoxal, et j'ai trouvé justement ça très très intéressant. D'un côté, on considère que ces femmes sont des victimes, et de l'autre côté, pour les sauver, parce qu'elles sont des victimes, parce que on a atteint à leur dignité humaine, on va les pénaliser. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très intéressant à observer là sociologiquement. Comment est-ce que le droit a construit une figure assez improbable de victime coupable? Parce qu'elles sont à la fois considérées comme des victimes d'exploitation sexuelle et
attendez,
en même temps...
Ça va un peu vite. Sauver, est-ce que c'est vraiment le rôle du droit de sauver? Est-ce que vous n'êtes pas déjà quand même, Milena Jaksik, dans une sorte de pathos, excusez-moi.
Je ne suis pas dans le pathos parce que j'ai suivi les débats parlementaires et c'est exactement les termes que les députés mobilisaient.
À que ça soit les termes des députés, oui. Mais est-ce que ça correspond véritablement à l'objectif du droit que d'être dans cette perspective, quand je sais pas comment dire, compassionnelle, humanitaire à l'égard de ces femmes.
En tout cas, dans la justification de ce dispositif législatif, c'est plutôt les arguments d'ordre compassionnel qui étaient mobilisés.
D'accord.
Et en fait, on avait une sorte d'association d'articulation entre des arguments d'ordre compassionnel et des arguments d'ordre répressif.
Donc on fait tout un foin, mais en fait, il se passe rien. dans les faits.
Donc, quand je disais que ce travail était finalement le résultat des accidents de parcours, de mon parcours personnel, oui, j'ai regardé cette loi. Je trouvais que la figure de la victime coupable était finalement une catégorie très intéressante à regarder sociologiquement. Et je me suis dit que je pourrais aller dans les tribunaux et regarder finalement le statut pénal de ces femmes dans les procès pour traite des êtres humains. Je suis allée donc au tribunal de grande instance de Paris pour suivre des procès pour traite des êtres humains. Et là, en fait, on m'a dit qu'il n'y avait pas de procès pour traite en France.
Ça n'existe pas, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Alors, on peut dire que la loi venait d'être votée. Ça faisait à peu près 3 ans que la loi venait d'être votée. Donc, effectivement, les procédures sont très, très longues. Mais quand même, c'était très étonnant. Et je voulais comprendre d'où sont disparues finalement ces femmes si elles ne sont pas devant les tribunaux.
Mais on peut-être qu'on poursuivait les proxénètes. Pas les femmes qui sont victimes, mais les proxénètes qui abusent d'elles.
Moi, je ne voulais pas regarder les femmes poursuivies. Je voulais regarder justement des procès pour traite des êtres humains. Donc effectivement, j'ai vu que les seuls procès qui étaient instruits devant les tribunaux étaient des procès pour proxénétisme aggravé. Mais il y avait quand même quelque chose de très intéressant parce qu'on avait toute cette mobilisation contre la traite des êtres humains. C'était construite à partir et sur la figure de la victime. C'est par la victime que finalement... On dit qu'il est important de se mobiliser pour cette cause. Donc c'est la victime qui est en fait l'objet de l'indignation. Il faut la sauver. Et de l'autre côté, on n'a pas de procès qui vise à pénaliser les auteurs de ces actes. Voilà. Et le deuxième accident en fait de parcours, c'est que on m'a incité à faire des interviews avec ces femmes, de comprendre leur parcours migratoire, de comprendre pourquoi elles ont quitté leur pays, comment elles se sont retrouvées dans des réseaux de traite. Et donc, on m'a dit, écoute, essaye de solliciter les associations pour entrer en contact avec ces victimes de traite.
Donc, ça a été assez difficile.
Donc, ça a été très, très difficile. Donc, j'ai appelé une association dite de santé communautaire. C'est des associations, en fait, de personnes, de femmes prostituées qui ont été créées à la fin des années 80. Donc des associations de personnes prostituées pour les personnes prostituées. On considérait que c'est les principales concernées qui étaient en quelque sorte les seules légitimes à parler de leur propre cause.
Mais elles n'aiment pas beaucoup les sociologues.
Elles n'aiment pas les sociologues, effectivement.
Elles ont raison, à votre avis.
Et je pense que ces associations n'ont pas forcément tort. Et donc, je me suis présentée, j'ai dit voilà que j'étais une jeune étudiante en sociologie, que j'ai réalisé une enquête sur la traite des femmes et que j'aimerais beaucoup rencontrer ces victimes et faire des entretiens avec elles. Et la présidente de cette association, elle m'a répondu de manière assez abrupte, si vous voulez rencontrer ces femmes, vous n'avez qu'à aller dans la rue. Et puis elle m'a raccroché au nez.
Pourquoi cette attitude ?
Et donc, j'ai été quand même très déstabilisée. J'étais très jeune, je venais de commencer cette enquête de terrain. Et donc, vous voyez, je me suis retrouvée quand même dans une situation assez délicate où d'un côté, il n'y a pas de procès de traite des êtres humains en France. De l'autre côté, on me raccrochonnait en disant que les victimes, je n'avais qu'à aller dans la rue pour les rencontrer. Et j'ai été prise de panique en me disant, mais en fait, c'est un objet sur lequel je ne pourrais pas travailler. Enfin, sur lequel j'allais difficilement travailler, qui n'existe pas. En fait, c'est une supercherie.
Qui n'existe pas dans les institutions.
Qui n'existe pas dans les institutions. Bon, mais comme de temps en temps, je peux être courageuse, parfois dans la vie. En fait, non. Je me suis dit que c'est finalement cette femme, cette présidente de cette association, qui allait devenir mon objet d'étude.
En fait, vous déplacez votre objet d'étude et c'est plus les femmes qui font l'objet de traite, mais ce sont les gens qui accompagnent les associations Milena Ajaxic qui vont devenir votre cible sociologique.
Voilà. En fait, je voulais prendre au sérieux le refus de cette association de me parler. Pourquoi cette association refuse de me parler? Et finalement, quel est ce rapport que cette association entretient avec la cause de la traite des êtres humains?
Qu'est-ce que vous découvrez?
Et donc, je décide que ce qui m'intéresse, c'est pas le parcours migratoire de ces femmes qui font l'objet d'exploitation sexuelle, mais ce qui m'intéresse, c'est leur trajectoire institutionnelle. C'est-à-dire, tout le dispositif de protection, d'identification qui se met en place, pour faire accéder ces personnes en statut d'ayant droit. Donc voilà.
Vous avez l'air un peu sceptique, Milena Jaksik. Vous avez l'air un peu sceptique à l'égard de ces accompagnants, de ces associations. C'est ça qui est intéressant dans votre livre d'ailleurs. Après, on parlera des enfants soldats. C'est que vous prenez vos distances à l'égard de toutes ces associations qui veulent aider les femmes qui font l'objet d'une traite et en vue de la prostitution. De la même manière d'ailleurs que vous vous méfiez des sociologues qui sont un peu trop proches de leur de cause.
Oui, merci pour cette question à Antoine Garapon. Non, je ne pense pas que je suis vraiment sceptique. Je ne pense pas que je sois sceptique. J'essaie au contraire de prendre leur travail très au sérieux. Mais prendre au sérieux le travail de ces associations, c'est aussi essayer de comprendre le type de contraintes dans lesquelles leur action s'inscrit. J'essaie de comprendre pourquoi ces associations font de l'identification des victimes de traite. Pourquoi elles introduisent des distinctions entre bonnes victimes et mauvaises victimes. Pourquoi c'est primordial pour elles?
Donnez-nous un exemple pour les auditeurs. Comment est-ce qu'une association peut repérer une bonne victime de la traite d'une mauvaise victime de la traite?
Mais tout dépend de l'association. Tout dépend de l'association, de ces schèmes cognitifs. Oui. Vous avez par exemple des associations donc de santé communautaire. C'est des associations en fait qui militent pour la reconnaissance de la prostitution comme travail. Pour ces associations, il y a une distinction entre prostitution contrainte et prostitution forcée. Et donc, elles considèrent que seules les prostituées...
Contrainte et libre, au contraire. Entre prostitution
contrainte
forcée...
Contrainte et libre, voilà, pardon. Et donc, si vous voulez, pour ces associations, seules les prostituées contraintes sont victimes de traite. Donc, pour être reconnue comme victime de traite, il faut prouver la contrainte, par exemple. Mais elles considèrent aussi qu'on peut être victime de traite et quand même continuer à se prostituer. Ces associations et font la distinction entre la nature d'une activité et les conditions de son exercice. À savoir, ce n'est pas la prostitution qui est un problème, ce sont les conditions dans lesquelles la prostitution s'exerce.
Et les autres associations?
Et pour les autres associations, la prostitution est une violence en soi, c'est une violence sexiste. Donc en fait, c'est la prostitution qui fait la victime, ouais, on ne peut pas être libre. Mais toutes ces associations, elles sont quand même dépendantes des préfectures de police, des services de police. Elles ne travaillent pas, elles ne sont pas dans un monde isolé.
Oui. C'est-à-dire, mais votre position à vous, Milena Jaksik, de quel côté vous êtes? Lesquelles vous préférez entre ces associations?
Je suis pour la décriminalisation de la prostitution et je suis pour qu'on intègre les prostituées dans la prise de décision, y compris législative. C'est-à-dire, je considère qu'il faut demander quand même le point de vue à ces personnes.
Oui, mais c'est bien le problème, parce que est-ce qu'elles sont véritablement libres? Est-ce qu'une femme, dans votre livre, par exemple, vous dites qu'il y a une femme qui apprend à l'audience d'ailleurs qu'elle a été vendue. Elle a été vendue pour la somme de 750 euros d'ailleurs, c'est le chiffre que vous... Et elle est vendue ce qu'elle pensait être sa copine, en fait, est celle qui a fait l'intermédiaire pour cette vente. Bon, comment est-ce qu'on peut être libre quand on se retrouve albanaise, roumaine, ghanéenne, nigériane à Paris, qu'on parle pas la langue, qu'on est dans une stratégie de survie? Quelle liberté, de facto, on peut avoir? Donnez la parole, vous dites, Milena Jaksik, c'est très bien, c'est votre argument, c'est dire, on va donner la parole à ces femmes, faut les considérer comme des sujets, elles ont des stratégies rationnelles, et elles ont leur mot à dire, et leur mot à dire excède toujours ce que vont dire les associations d'elles. Et vous trouvez que les associations, elles, j'ose pas dire qu'elles se servent, mais qu'elles ont une vision d'emblée sur ces femmes qui ne respectent pas toujours leur trajectoire ni leur personnalité.
Oui, Antoine Garapon, c'est exactement ce que je dis. Enfin, pas toutes les associations, il ne faut pas non plus essentialiser. Mais avec la traite des êtres humains, et c'est le cas aussi des enfants soldats, nous sommes quand même dans des causes un peu limites, dans le sens où les principales concernées ne prennent jamais la parole. Elles sont toujours parlées par d'autres. Les associations, les experts, les politiques. On n'est pas dans des formes de mobilisation comme par exemple pour les sans-papiers qui vont occuper des églises, qui vont descendre dans la rue, qui vont rédiger des...
D'accord, Milena Jaksik, mais comment leur donner la parole? Comment leur donner la parole?
Il y a des initiatives qui se font en ce sens-là, mais je pense que... Je pense qu'en fait, on est dans un cas aussi limite parce qu'il s'agit des personnes qui n'ont pas des ressources forcément nécessaires pour vraiment accéder à l'espace public. Elles n'ont pas de papier, elles sont frappées de stigmates de putain. Lilian Mathieu, il a fait un travail sur les mobilisations des prostituées. Il montre à quel point c'est difficile lorsque vous véhiculez ce stigmate de putain de faire une apparition publique oui. dans une émission télé devant l'Assemblée nationale, etc.
Mais est-ce que si on leur donne la parole, parce que c'est ce que j'ai senti dans votre livre et puisqu'on lit aussi dans d'autres ouvrages, c'est que dans le fond, leur attitude est beaucoup plus ambivalente que ce qu'on croit. C'est pour ça que finalement, l'étiquette de victime coupable, Milena Jakšić, elle est aussi, elle reflète cette ambivalence. Parce qu'on constate, par exemple, que beaucoup de ces filles qui sont arrivées contraintes dans des réseaux deviennent ensuite des madames, comme elles disent. Et donc, ça veut dire qu'elles prennent la place de l'oppresseur. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est-à-dire, je sais pas.
Oui, nous avons beaucoup de cas où effectivement des femmes qui ont contracté une dette auprès des passeurs et qui, une fois remboursées ces dettes, deviennent des proxénètes. Oui, nous avons des cas comme ça. Mais le problème avec vos questions, c'est qu'en fait, ce n'est pas en regardant la traite et la prostitution qu'on obtient des réponses les plus justes. Ma position, c'est de dire que la traite des êtres humains est intimement liée à des politiques visant à criminaliser les migrants. La plupart de ces femmes, elles viennent, par exemple, en France en contractant une dette. Si les frontières étaient ouvertes, si il était plus facile de venir en France, sans avoir besoin de visa.
Parce que c'est la volonté de venir en France qui l'emporte sur le reste.
Mais évidemment, donc c'est pour ça. Et c'est si vous voulez, si vous venez du Nigeria, venir en France, c'est un parcours de combattant. Obtenir un visa, avoir un passeport,
c'est un parcours de combattant. Que si on ouvrait les frontières, vous pensez vraiment que si on ouvrait les frontières, il y aurait plus de macro, il y aurait plus de passeurs, il y aurait plus d'hommes qui vendent des femmes orphelines ou célibataires, comme ça c'est le cas actuellement en Albanie. Vous pensez pas que le phénomène de la domination, et en l'occurrence de la domination masculine, elle est pas supérieure à tout ça, à la frontière?
Je pense pas qu'elle soit supérieure à ça, mais je pense qu'elle est intimement liée à ça. Donc, on doit travailler sur les deux plans. Mais là, vous me posez des questions comme si j'étais une experte qui doit...
Vous l'êtes un peu quand même, non?
Oui, donc moi, c'est ce que je vous dis. Il faut décriminaliser la prostitution. Si vous me posez la question des solutions, je pense qu'il faut décriminaliser la prostitution. Octroyer à ces femmes un certain nombre de droits, donc le droit de séjourner légalement en France, le droit d'avoir accès à la sécurité sociale...
Est-ce que vous pensez que ces mesures sociales suffiraient à nettoyer en quelque sorte leur consentement, qu'il y aurait un consentement, qu'il n'y aurait plus cette dimension d'endettement, de forçage de la dette, de domination masculine en l'occurrence.
Mais je pense que par rapport à la traite, il faut agir sur deux plans, donc le plan de la prostitution et le plan de la libre circulation des personnes. Mais on n'en est pas là. Vous voyez avec la crise des réfugiés ce qui se passe. Je pense que la France et l'Union européenne ne sont pas du tout prompts à laisser les gens venir.
Mais et le fait de poursuivre les proxénètes, vous avez assisté à un certain nombre de procès. Ça c'est bien. Il faut continuer à poursuivre les proxénètes. Ça c'est une forme de criminalisation qui marche.
Oui, je pense que bien sûr il faut poursuivre des proxénètes, mais
Là, je suis un peu en train de vous piéger là. D'ailleurs,
oui, je sens que vous êtes en train de me piéger.
Non, mais... parce qu'en fait, je veux dire par là, c'est que votre travail, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous cherchez à vous distancer aussi d'une certaine sociologie, d'une certaine sociologie qui était trop proche de la cause et qui se servait de cette description militante, un peu militante, de la traite des blanches pour la dénoncer et pour dénoncer beaucoup d'autres choses.
Oui, en fait, on est dans un débat qui est très très clivé. Donc, vous avez soit d'un côté des personnes qui sont pour la prostitution, enfin qui veulent faire la distinction entre prostitution libre et prostitution forcée. Et de l'autre côté, vous avez donc des acteurs qui sont qui considèrent que la prostitution est un viol en soi et une exploitation des femmes. Et donc, vous avez beaucoup de chercheurs qui ont en fait la double casquette de chercheurs militants qui, dans leurs enquêtes, qui font des enquêtes pour valider leur théorie sur la prostitution. Donc moi, je ne voulais pas faire ça.
Vous voulez échapper et aux uns et aux autres, c'est
je
ça la
démarche. Je voulais échapper et aux uns et aux autres, mais je voulais aussi échapper à ce que j'appelle une certaine sociologie du dévoilement, c'est-à-dire la sociologie qui consiste, qui se met dans une position surplombante par rapport aux acteurs et qui va montrer ce que les acteurs eux-mêmes ne sauraient voir. Et par exemple, par rapport à la question de la traite des êtres humains, vous avez quand même un certain nombre de travaux qui tendent à dire « mais non, la traite n'existe pas, ce n'est que une construction sociale, c'est un instrument au service des pays riches qui vise à criminaliser les personnes prostituées, etc. » Je pense que ces chercheurs ont en partie raison, c'est vrai, la traite, elle, sert souvent à criminaliser les femmes migrantes, à criminaliser les prostituées. C'est exact. Mais moi, c'était pas l'objectif de ma démarche. Je crois qu'on peut dire de certains phénomènes sociaux qui sont construits, mais c'est pas parce qu'ils sont construits qu'ils sont nécessairement faux.
Vous êtes dans une position. Vous êtes dans une position qui est quand même quelquefois très courageuse d'ailleurs hein, à l'égard de ce milieu sociologique et ce milieu associatif, parce que ça apporte du vent frais, ça apporte un regard nouveau. En même temps, comment vous allez vous appuyer sur appuyer votre point de vue de sociologue qui regarde donc d'un regard distancié et qui refuse à la fois la sociologie du dévoilement et de la dénonciation, à la fois la sociologie de l'accompagnement.
J'ai été beaucoup influencée, par exemple, par le travail de Bruno Latour. Et lui, il explique très bien par rapport au constructivisme social. Il donne l'exemple d'une maison. Une maison, elle est construite et elle existe. Donc les choses peuvent être construites, mais le construit n'est pas toujours synonyme du faux ou synonyme de l'artificiel. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les choses sont construites, de quels matériaux elles sont faites, et c'est ça que j'ai essayé de comprendre dans ce travail. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore. Vorrei morire mentre la luna di lassù mi sa guardare. Resta soltanto tutto rimpianto perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son sola a ricordare e vorrei sentirti dire: guarda che luna, guarda che mare.
Cette musique que vous avez choisie, qui nous réveille à cette heure-là de la nuit.
Mais oui, effectivement, il est 22h passées et j'ai choisi donc un morceau d'un groupe italien qui s'appelle Musica Nuda. Et pourquoi je l'ai choisi ? Parce que c'est le morceau préféré d'un ami qui m'est très cher et qui est mon seul éditeur, je crois, à l'heure qu'il est.
Et alors, on va revenir à cette question de la traite et dans le fond, ce qu'elle nous dit, parce que c'est ça votre travail, c'est dire, à travers la question de la traite des êtres humains, il y a bien sûr une cause qu'il faut combattre administrativement, politiquement, etc. Mais il y a aussi ce que ça nous dit de notre monde, ce que ça nous dit de notre monde. Avant d'en arriver là, est-ce que, dans le fond, est-ce que vous seriez d'accord à dire que, pour dire que, quand on refuse à la fois la dénonciation, le dévoilement, à la fois l'accompagnement, vous vous concevez un peu comme une porte-parole de ces femmes, quelqu'un qui va porter témoignage pour elles.
Je n'ai pas cette prétention, mais j'ai effectivement essayé de prendre de la distance avec ce clivage qu'on a évoqué tout à l'heure. et aussi de dire que finalement, il faut rompre avec une certaine... pour parler de la traite, il faut sortir de la traite, en fait. Il faut sortir, justement, ce qu'on a fait dans la première partie de l'émission, on a parlé beaucoup de traite, mais je pense que la traite, elle parle de d'autres choses aussi,
donc du monde, de nos aspirations, de nos contradictions.
Mais aussi des migrations, de l'ouverture des frontières. Je crois que c'est des questions qu'on n'affronte pas.
Alors ce que je comprends dans ce que vous dites, et d'ailleurs je trouve ça très intéressant, vous dites en quelque sorte faire des politiques à partir de la compassion, comme l'ont fait nos députés et vous, dans les débats parlementaires. Il y a un moment où ça ne va plus, ça ne peut plus aller parce qu'on est en contradiction. Et cette contradiction, c'est quand on rencontre la sécurité. C'est que la sécurité nous oblige à faire des choix, à faire des choix qui on va protéger, ces femmes ou nous.
Oui, c'est ça qui a été très intéressant dans ce travail. C'est une cause qui finalement s'inscrit dans un registre dans un registre moral.
Oui. Humanitaire.
Dans un registre moral, humanitaire. J'ai été très influencée par cet ouvrage de Luc Boltanski qui s'appelle La souffrance à distance, dans lequel il essaye de montrer ce que les politiques de la pitié, il appelle ça les politiques de la pitié.
C'est quoi une politique de la pitié ?
Il a défini comme une politique qui mobilise la souffrance pour en faire un argument politique par excellence. Et je crois qu'il y a quelque chose avec la catégorie des victimes. La catégorie des victimes, elle a cette puissance mobilisatrice très importante. On l'a vu avec la traite des êtres humains, c'est elle qui mobilise, c'est elle qui suscite l'indignation de l'opinion publique, c'est elle qui finalement quelque part réduit la distance entre un spectateur passif et la cause. Donc elle est un instrument très efficace de la mobilisation.
Et en même temps, c'est pas une bonne catégorie.
C'est pas une bonne catégorie. On l'a vu par exemple dans les récents débats parlementaires sur la pénalisation des clients des personnes prostituées en France. Là, la gauche et la droite étaient tout à fait d'accord pour dire que c'est des femmes qu'il faut sauver. Excusez-moi, mais
on en vient toujours
en
là.
Gros, il faut les secourir. Et donc c'est à ce titre qu'on va pénaliser les clients. Donc on va s'attaquer quelque part à la source de la prostitution. Et en même temps, dès qu'il s'agit de discuter des droits à octroyer à ces personnes, on en revient
à la
question des droits.
Change.
La tonalité change. On dit oui, elles sont victimes, et en même temps, elles sont sans papier. Donc, il faut qu'elles prouvent qu'elles sont victimes.
Et on a du mal à leur faire confiance.
Et on a du mal à leur faire confiance parce qu'on considère... Vous savez, aujourd'hui en France, pour être reconnu comme victime des traits des êtres humains, il faut témoigner contre ces proxénètes ou déposer plainte contre ces proxénètes.
Ce qui prend des risques terribles.
Et donc, il faut quand même, quelque part, prouver. C'est à la victime... Oui. Il n'y a pas dans ce cas une instance de certification.
Il n'y a pas de tiers. Il n'y a pas de tiers de justice.
Exactement. Et c'est à la victime de prouver qu'elle a été véritablement victime.
Et alors, en plus, ça va se compliquer. C'est intéressant, c'est-à-dire que dans le fond, quand on fait une politique soit exclusivement sécuritaire, soit exclusivement humanitaire, on manque un point essentiel, qui est le point du tiers de justice, qui est un tiers politique en l'occurrence. C'est-à-dire, au nom de quoi on fait, et on le fait pas pour sauver les gens, mais pour améliorer, permettre une meilleure coexistence humaine. Mais en plus, il y a une difficulté du fait que ces femmes sont étrangères. Alors parfois, c'était un peu stupide de dire un peu étrangères, elles viennent de Roumanie, elles viennent d'Albanie. Parfois, elles viennent d'un univers mental, culturel, très très lointain. Je pense aux Ghanéennes ou je pense aux Nigérianes. Et là aussi, encore, on veut bien les considérer comme victimes à condition de les abstraire de leur culture, de les abstraire d'elles-mêmes.
Exactement.
Elles sont autre chose que ça.
Je me suis beaucoup intéressée à ces questions. Peut-être je les ai insuffisamment traitées dans mon ouvrage, mais je me souviens par exemple des officiers de police, mais c'est quelque chose qui existe aussi dans les associations, qui vont dire que quelque part ils comprennent mieux les femmes qui viennent de Roumanie ou de Bulgarie parce que c'est en gros, c'est la même culture européenne, alors qu'ils ont beaucoup de difficultés à travailler avec des femmes qui sont originaires du Nigeria, parce qu'elles seraient sous l'emprise du vaudou, et que pour eux, le vaudou, c'est quelque chose qui leur est tellement étranger.
Ça n'existe pas.
Et ça n'existe pas. Par exemple, là, récemment, j'ai suivi un procès au tribunal de Bobigny de traite des êtres humains et de proxénétisme aggravé, parce que maintenant, les affaires...
Il y en a quelques-unes.
Donc, la qualification commence à être retenue sous pression de la Commission européenne. Et,
pas des associations, de la Commission européenne.
C'est Greta, c'est une instance d'experts. Ouais. Et pour la juge, le vaudou, ça n'existe pas, elle n'y croit pas. Elle a dit, par exemple, dans ce procès, vous croyez au sort, mais moi, je ne crois pas au sort. Et donc, si ce procès doit avoir une finalité, c'est de vous faire comprendre que le vaudou n'existe pas. Et donc, on va sans cesse... Donc, le procès, il aurait une vocation pédagogique, civilisatrice presque. Le procès aurait une vocation civilisatrice à la fois à faire comprendre à ces femmes que la prostitution, c'est mal, que le proxénétisme, c'est mal, et que le vaudou n'existe pas.
Qui est une autre forme d'oppression, le mot est trop fort, mais c'est une autre forme de domination culturelle pour le coup alors.
Oui, c'est en tout cas dans les procès on assiste à, je ne sais pas s'il s'agit de domination, mais en tout cas des rapports de pouvoir. Par exemple, dans ce procès, on avait quelqu'un, un proxénète, qui disait mais vous ne comprenez pas, chez nous au Nigeria, c'est tout à fait normal la prostitution. Et puis vous m'accusez de traite des êtres humains, alors que vous, la France, vous êtes les pires esclavagistes de l'histoire. Et vous m'accusez, moi, de traite des êtres humains. Donc vous voyez, pourquoi je ne parle pas en termes de domination ? Parce que je crois que dans les procès se joue autre chose. Les prévenus, ils peuvent aussi résister à des injonctions justement culturalistes des juges ou des professionnels.
Parce que ce sont des agents moraux et donc ils sont capables d'argumenter aussi.
Exactement.
Oui, mais alors, ça vous met dans une position que je trouve à la fois intéressante et très délicate parce que ça veut dire que la sociologue que vous êtes, et vous prenez une image qui est très intéressante. Vous dites, je crois que c'est à la fin de votre livre, vous dites, mais on ne demandait pas à Durkheim de comprendre un suicidant. On lui demandait de nous expliquer le phénomène du suicide.
Oui.
C'est ça le rôle du sociologue.
Mais écoutez, en fait, moi j'ai beaucoup de tendresse pour Émile Durkheim, le père de la sociologie. Effectivement, je trouve que le travail qu'il a fait autour du suicide est tout à fait exceptionnel. Parce que ça nous dit quelque chose de la sociologie ou de l'anthropologie de la violence. En fait, en tant que sociologue, on a beaucoup du mal à travailler sur la violence. Tout ce qu'on peut observer empiriquement, ce sont des effets de la violence. Mais la violence, elle ne se donne jamais à voir directement. La violence de la traite des êtres humains, elle ne se donne jamais à voir directement. Donc ce qu'on peut comprendre, en revanche, c'est la relation sociale au phénomène de traite des êtres humains.
Oui, alors c'est quelque chose qu'on retrouve, Milena Jaksic, avec les enfants soldats. Parce que les enfants soldats, ça exaspère le paradoxe que vous dites de la violence. C'est-à-dire que la violence est faite par des gamins, elle est faite par des jeunes. Alors parfois ils sont des jeunes adolescents, mais parfois ils sont beaucoup plus jeunes que ça. Et donc là, on perd nos repères traditionnels de la violence où il y a une victime, un bourreau, pour reprendre la distinction canonique.
Alors je ne sais pas ce que ce « on » recouvre. Pour vous
Ce que si on recouvre, c'est-à-dire l'opinion commune, quoi. C'est-à-dire que on pense, et il me semble que quand on parle de victime, on parle de victime et la victime fait couple avec le bourreau. Et c'est une relation duelle, c'est l'oppression extrême, manifeste, absolue, c'est une oppression qui exclut le tiers. Et c'est pour ça d'ailleurs que, à mon avis, cette relation est réversible. Et quand vous dites la victime peut devenir coupable, et elle est victime et coupable, on va retrouver ça, on retrouve ça partout. Dans la justice, quand on dit les jeunes des banlieues, les gamins, etc., qui sont violents, ils arrivent au tribunal aussi bien en tant qu'auteurs d'un que souvent comme victime d'infraction. On sait que c'est les mêmes, quoi, sociologiquement. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a une relation victime-bourreau qui est une relation qui est en soi enfermante. C'est une catégorie qui est en soi enfermante. Et c'est celle, me semble-t-il, à laquelle vous avez voulu échapper.
Oui, ce qui n'est pas évident, mais effectivement, il y a beaucoup de parallèles entre mes deux enquêtes de terrain, donc celle qui porte sur la traite des êtres humains et sur les enfants soldats, parce qu'on on retrouve la même catégorie de victimes coupables. Les enfants soldats sont considérés comme des victimes parce que enrôlés de force, oui, oui. Et parce que c'est des enfants, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire la catégorie dont le fait qu'ils soient des enfants les innocente directement.
Et de l'autre côté, parfois, d'ailleurs.
Et de l'autre côté, ils sont considérés comme des auteurs de crimes, parfois d'une grande cruauté. Alors, j'ai assisté à une scène assez intéressante parce que j'ai fait une enquête préliminaire auprès de la Cour pénale internationale. J'ai assisté à une scène assez intéressante à la CPI où vous avez le Bureau de protection des victimes qui, à la fois, représente donc les anciens enfants soldats, oui. Mais qui représente aussi les victimes de ces mêmes enfants soldats. Donc, on est toujours victime d'une autre victime. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs, en fait.
Faute précisément d'une articulation par une institution.
Exactement.
Il y a cette tension. Alors, moi, je me trompe peut-être, Milena Jaksik, mais dans votre position, il y a quelque chose qui m'a rappelé la position de Camus. Quand il regarde, qu'on voit dans toute l'œuvre de Camus, et qui est sa manière de parler des pauvres, où il dit, dans le fond, je veux parler, moi, par l'art, par la littérature, de la pauvreté, sans me faire les porte-parole de qui que ce soit. Et il érige l'indifférence comme une vertu cardinale pour lui. Non pas l'indifférence de celui qui s'en fout, l'indifférence de celui qui refuse de juger. Pour Camus, c'est le rôle de la littérature, de l'esthétique, on pourrait dire, c'est de donner à voir sans juger. Est-ce que c'est pas un peu ça, votre démarche, Milena Jaksik?
Oui, c'est en partie ma démarche. En fait, ce qui me fascine, parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup sur l'œuvre de Norbert Elias. Et dans cette œuvre, donc il est connu pour mobiliser, pour avoir forgé des concepts de configuration ou de relations d'interdépendance. Et en fait, ce qui m'intéresse toujours, c'est ma démarche à la fois sur des questions de traite et d'enfants soldats, c'est de voir comment différents mondes sont connectés entre eux et comment ils nouent des relations d'interdépendance et ce que ces relations d'interdépendance produisent. Donc en fait, mes enquêtes, elles sont toujours multisites. Je ne regarde jamais un acteur. Je ne fais pas une sociologie des institutions.
C'est ça.
Je ne fais pas une sociologie d'une catégorie sociale. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'essaye. Je ne sais pas si je réussis.
Ça sera au lecteur de décider.
Voilà, c'est laborieux. Mais en tout cas, j'essaye de mettre en place une sociologie de l'action qui est sensible justement aux contraintes et aux règles qui animent le travail des acteurs.
Sensibilité qui manque souvent d'ailleurs, dont sont dépourvus un certain nombre de travaux de sociologie. Est-ce que la littérature, vous parlez de Norbert Elias, est-ce que la littérature ne vous aide pas aussi
Oui, alors effectivement, donc il y a un livre qui a eu une influence déterminante sur mon travail. C'est le livre de William Faulkner, Tandis que j'agonise. Donc j'ai beaucoup de tendresse, encore une fois, comme pour Durkheim, j'ai beaucoup de tendresse pour l'œuvre de William Faulkner.
Et qu'est-ce qui vous a apporté, Milena Jaksik?
Et pourquoi ce livre a été important? Alors je ne sais pas si les auditeurs l'ont lu. Donc pour résumer, il s'agit d'une mère de famille. Qui vient de décéder et donc ses enfants vont faire un voyage pour l'enterrer. Et le livre, en fait, est construit autour des narrations de ses enfants. Donc, ses enfants et son mari vont prendre la parole dans le livre. Donc, la femme est parlée par ses enfants et par son mari. Et en plein milieu de cet ouvrage, la femme, elle va parler. Donc, cette absente, elle va prendre la parole... Oui. Et parler de son expérience et de comment elle voit ses enfants et des relations qu'elle a avec eux. J'ai voulu faire ça dans mon travail sur la traite des êtres humains. Je ne pense pas avoir vraiment réussi, mais je voulais construire, une narration qui serait un peu similaire, c'est-à-dire je regardais comment la victime est parlée par d'autres et finalement en plein milieu de l'ouvrage situer cette grande absente des discours, qui sont les femmes elles-mêmes.
C'est ça. Mais alors ça, on se rapproche de quelque chose qui est plus de l'ordre du regard, de l'ordre esthétique, c'est-à-dire que c'est plus le regard qui permet d'embrasser en même temps des situations différentes, des personnes différentes. Ça s'oppose tout à fait, d'ailleurs, à la lecture discursive. Je pense que Camus insiste beaucoup là-dessus, sur dans lequel on entend les uns puis les autres, et puis après les uns de manière successive. Là, le travail de la sociologie, et qui serait en quelque sorte l'aboutissement de la sociologie, serait de nous restituer sans jugement cette situation.
Alors, sans jugement, oui, je pense que c'est important. Après, sans jugement ne veut pas dire que le sociologue ne prend pas position.
Sans jugement, ça ne veut pas dire sans explication.
Sans jugement ne veut pas dire sans explication, mais sans jugement ne veut pas non plus dire que le sociologue est complètement neutre. Moi, j'ai vraiment du mal à croire la neutralité axiologique qui est prônée par...
Mais alors, comment il s'en sort, le sociologue, s'il doit prendre position en refusant, en dénonçant ceux qui prennent position?
Mais c'est très difficile parce que ce qui est passionnant dans notre travail, c'est toute la démarche d'enquête. Donc, moi, j'ai passé plusieurs années à circuler entre ces différents mondes, à passer du tribunal au service de police, des services de police aux associations, et puis à être dans la rue avec un bus de nuit auprès des femmes prostituées. Donc, je circulais entre ces différents mondes et c'était vraiment passionnant. Après, ce qui est difficile dans notre travail, c'est le passage à l'écriture. Donc, c'est à la fois solitaire et puis c'est un travail qui est rempli de doutes parce qu'on a toujours l'impression d'être soit dans la surinterprétation, soit dans la sous-interprétation de ce qu'on a vu.
Écrire, c'est exclure. L'acte de langage même, c'est exclure quelque chose. Exactement. De toute cette épaisseur du monde vécu.
Voilà. Et donc... Peut-être que les chercheurs en sciences sociales devraient se diriger davantage vers d'autres formes d'écriture et explorer des formes plus littéraires et réfléchir un peu aussi aux relations entre sciences sociales et fiction. Il y a déjà beaucoup de travaux là-dessus, mais finalement, peut-être que tout ce qu'on fait en sociologie, c'est de la fiction.
C'est une fiction argumentée.
C'est une fiction argumentée, mais par fiction, je ne veux pas dire quelque chose qui serait antinomique à la réalité. C'est pas le contraire de la réalité. C'est simplement, on fait des choix dans
Alors,
la narration.
Est-ce que ça ne veut pas dire que le sociologue est celui qui comprend ses choix, qui assume ses choix, Milena Jakšić, et qui les explique, qui les expose? Est-ce que, finalement, une manière de libérer le lecteur de vos choix, c'est de dire ce que vous avez fait dans votre ouvrage, d'ailleurs, de dire, attendez, voilà ce que je pense, et voilà pourquoi je le pense. Mmh. Mais c'est toujours ce travail de distanciation, de secondarisation qui ferait l'œuvre intellectuelle. Mmh.
Par exemple, ces derniers temps, j'ai beaucoup lu les travaux de Jean Favre et Saada et de quelqu'un que j'aime énormément qui s'appelle Elisabeth Clavry.
Alors, ça vous ramène du côté de la sorcellerie aussi, Jeanne.
De la sorcellerie, effectivement. Ou des apparitions du côté d'Elisabeth Clavry et de tout le travail formidable qu'elle fait autour des crimes de guerre. Donc, comme par hasard, il s'agit de deux femmes ce que j'aime dans leur travail, c'est que finalement, toute la construction théorique conceptuelle, elle est contenue dans la description.
Est-ce que, c'est ma dernière observation, c'est même pas une forme de question, Milena Jakšić, dans tout ce travail à l'égard des femmes, est-ce qu'il ne faut pas avoir quand même un peu confiance dans le monde?
Oui, je pense qu'il faut avoir une... En tout cas, ce qu'elle dit Favre Saada, être affectée et avoir aussi une certaine forme d'empathie pour les acteurs, quels qu'ils soient, policiers, militants associatifs ou juges.
Merci, Milena Jakšić. Les discussions du soir, Milena Jakšić, Pierre Mine, Corinne Amar. Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon.